18h, 19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes mardi 8 juin et vous écoutez C'est vous qui le dites, la quotidienne d'info locale et citoyenne de Radio U sur le 101.fm. Et ça y est, l'été est là, le couvre-feu est déplacé demain à 23h et les programmations culturelles reprennent. Retrouvez en deuxième partie d'émission Julien Saout, responsable du service culturel de la ville du Relecq-Quirion, que nous aurons par téléphone pour nous présenter la saison culturelle estivale du Relecq. Mais tout de suite, on parle du Centre d'art contemporain Passerelle. Alors avec nous ce soir, on a, et je règle les micros parce que je suis à la technique et à l'animation, donc on a avec nous ce soir deux personnes de Passerelle. On a le directeur Loïc Legal, bonsoir.
Bonsoir.
Hop. Et on a Johanna Cartier, une artiste en résidence, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, ça y est, le 11 juin, vous accueillez à nouveau du public dans les locaux de Passerelle. Malheureusement, pas de vernissage prévu, mais un accès libre de 14h à 18h30 pour voir quatre expositions programmées jusqu'au 11 septembre. Alors, on parlera de Là où est la mer un petit peu plus tard pour tout expliquer. Mais avant, est-ce que vous pouvez nous présenter donc les trois autres expositions que l'on pourra découvrir? On peut peut-être commencer par Pascal Rivet et son exposition Les Géants.
Oui, donc bonsoir à toutes et tous. Donc en effet, on réouvre avec grande joie ce vendredi, à partir de 14h jusqu'à 18h30, avec quatre expositions, mais pas uniquement, puisqu'on aura également la réalisation d'une fresque, une peinture murale en dehors de Passerelle, et d'autres événements qui jalonneront un petit peu tout l'été. Pour Pascal Rivet, un petit peu pour dire deux, trois mots là-dessus, c'est un artiste qui est assez connu à Brest puisqu'il est professeur à l'école d'art. C'est un artiste qui est né dans les années 60, qui a une carrière déjà bien remplie. Il a été connu dans les années 90 autour de vraiment la question de ce qu'on appelle le populaire. Il a travaillé beaucoup autour de d'objets agricoles, de métiers comme le livreur de pizza, comme le chanteur, etc. Donc c'est vrai que c'est un artiste qui touche un petit peu à tout, qui est sculpteur à l'origine, qui est peintre pour l'exposition. Et en l'occurrence, je l'ai invité en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Brest. Et donc l'exposition a lieu en deux sites, à la fois au Musée des Beaux-Arts et à la fois à Passerelle. Cette exposition, elle est organisée dans le cadre du Tour de France aussi, Brest ville départ. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'on a invité Pascal. Pascal, du coup, a réalisé une très grande œuvre qui est dans le patio de Passerelle. Cette œuvre, elle est immense, parce que c'est une peinture de 9 mètres de long sur 6 mètres de haut. Et c'est une peinture un peu bizarre, parce qu'elle est à la fois abstraite et figurative. Elle montre des cyclistes en train de chuter. Et ces cyclistes chutent, mais c'est à la fois la beauté de ce sport de dire que la compétition est là et que tout peut arriver à tout instant. Ça fait partie du sport, malheureusement, et heureusement aussi. Et de l'autre côté, c'est aussi une peinture qui est, altérée. C'est une peinture qui est en mouvement, parce que finalement, la figuration se déforme. Et on a comme une forme de vague dans l'image. Et là, on est vraiment face à plusieurs choses. On peut imaginer l'impact peut-être du chaos, du cycliste qui tombe au sol. Donc l'effet d'avoir plus de son, la vision troublée, mais aussi peut-être l'usage de substances dopantes pour le cycliste, ou de substances récréatives, hein, bien sûr. Mais voilà, donc ça c'est la première exposition de Pascal Rivet, avec du coup d'autres œuvres qui sont sur la mezzanine de Passerelle, et qui reprennent un petit peu cet univers du Tour de France, notamment avec un ancien gagnant du Tour qui s'appelle Bjørn Riise. Voilà, un cycliste qui a gagné le Tour de France dans les années 80. Et donc Pascal, finalement, réutilise cette icône et se travestit en ce cycliste. Donc on a aussi à la fois ce jeu sur le travestissement de l'auteur. Voilà, déjà pour la première exposition, Pascal Rivet, je ne sais pas si je continue ou...
Si, allez-y, on a les arrivées, c'est ça ?
Tout à fait. Après, on a une exposition qui s'appelle Les Arrivées, d'un artiste franco-marocain né à Casablanca en 86, qui s'appelle Achraf Touloub. Achraf Touloub, c'est un artiste que je suis depuis déjà de nombreuses années. C'est un artiste qui est assez connu dans le monde de l'art contemporain, puisqu'il a présenté des œuvres à la Biennale de Venise, qui est l'un des grands rassemblements pour l'art contemporain dans le monde. C'est quelqu'un qui a déjà eu des expositions aussi au Centre Pompidou, à Paris. Donc c'est pas un inconnu, mais c'est quelqu'un, finalement, qui n'a jamais eu d'exposition monographique en France, en institution. Ça me paraissait évident aujourd'hui de l'inviter. Et donc c'est dans cette idée-là d'une invitation ouverte à l'artiste que Achraf est venu poser ses valises à Brest. Achraf a du coup réalisé tout un nouveau corpus de peinture, alors qu'il est dessinateur, et cette fois-ci il a réalisé des peintures. Et c'est quelqu'un qui, on va dire, travaille sur la question de qu'est-ce que la réalité, et notamment quel est le statut de l'image. Aujourd'hui, on regarde tous des images sur le téléphone, sur Internet. Les images, nous polluent en permanence. Et finalement, son travail à Schraff, si on devait un petit peu caricaturer, c'est de savoir comment est-ce qu'une image, comment est-ce qu'un paysage, un objet, un être humain, un personnage, va-t-il être digéré par la machine, par l'algorithme Google, l'algorithme en ligne, et retranscrit après par la suite dans le monde visuel, notre monde à nous. Et donc il va réutiliser des images et les rendre difficiles à lecture pour ces machines. Un petit peu finalement comme ces personnes en Grande-Bretagne qui se griment le visage avec des couleurs pour empêcher la reconnaissance faciale. Achraf, finalement, il a ce travail de rendre difficile à la lecture ses propres images. Et c'est en ça, finalement, qu'il a une vraie force, c'est que un être humain, quand il va être face à l'œuvre, il va peut-être regarder 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes l'œuvre, et il va commencer à comprendre ce qui se passe. Dans cette abstraction, figuration, c'est dur de la situer, et il va reconnaître des formes. Et la machine, elle, va être perdue. Donc c'est vraiment ce travail-là de se dire que une dimension peut-être existe autre part par Internet, une dimension on peut l'appeler quatrième, cinquième, sixième, c'est pas vraiment la question, mais en fait c'est vraiment de savoir que faire de ce monde numérique aujourd'hui qui nous envahit. Donc on aura à la fois ces peintures, des corpus d'œuvres plus anciennes des années 2016, 2017, 2018, qui font beaucoup penser à la miniature persane, qui font beaucoup penser aussi à, on va dire, l'artisanat marocain notamment. C'est des œuvres aussi qui sont assez engagées politiquement. Il a fait beaucoup d'œuvres en rapport avec les Gilets jaunes, des œuvres en rapport avec la Gare du Nord à Paris, où c'est un lieu de rassemblement, un lieu de passage de millions de personnes par jour, de toute origine différente. Et c'est un artiste aussi qui s'intéresse pour l'exposition sur la question de l'origine. Alors l'origine, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être une origine, on va dire, philosophique, une origine religieuse. Et Achraf s'intéresse en particulier sur la question de l'origine de la création d'une nouvelle dimension. On revient sur la question de l'image, mais d'une manière un peu différente, c'est finalement comment la fiction apparaît-elle. Et donc lui, il imagine une peinture qui s'appelle « Première scène »,« As they split horizon », comment ils ont coupé l'horizon. Et donc on discerne du coup, parce qu'on peut pas vraiment les devine, des personnages dans un univers un peu antiquisant. Et dans cet univers-là, pour la première fois, des hommes, des femmes déclament quelque chose, que ce soit une poésie, une fiction. Et donc c'est l'origine un petit peu du théâtre, la première scène. Donc c'est un petit peu de cette manière qu'il faut voir et appréhender cette exposition. C'est aussi un début pour lui dans la peinture. C'est quelqu'un qui est un dessinateur et qui a toujours dit qu'il voulait d'abord être à l'aise avec le dessin avant de se lancer vraiment dans la peinture. Et donc là, on y est enfin. Donc c'est le début d'une nouvelle ère aussi pour l'artiste.
Et puis on a une troisième exposition aussi, donc avec Johanna Cartier. L'exposition s'appelle Turfure. Je vais peut-être vous laisser en parler un petit peu.
Oui, bien sûr. Donc déjà, le titre, réunit un petit peu toutes les clés de l'exposition. Donc il y a tous les thèmes qui sont abordés à travers le titre Turfure. Donc il y a le turf déjà qui indique un certain intérêt pour le monde de l'équitation et des courses hippiques notamment. Turf aussi qui veut dire en anglais gazon. Donc il y a un petit peu cette dimension aussi du terrain, parce que j'explore beaucoup aussi l'univers rural à travers la majorité des pièces de l'exposition. Et donc on a aussi la deuxième partie du mot, donc qui est fur, donc en anglais la fourrure. Donc c'est un petit clin d'œil aux matériaux qui sont utilisés dans l'exposition et puis dans mon travail en général. Donc c'est la fourrure synthétique, c'est un petit peu aussi le côté de la matière qui est un peu cheap, qui reprend les codes un peu populaires et puis tout ce côté de limitation en fait en général, et c'est ce qu'on retrouve aussi sur certaines pièces qui sont exposées, c'est comment arriver à reproduire des techniques, voilà, c'est des petits détails. On a aussi du coup la connotation, il y a tout le côté turf, mais aussi qui veut aussi dire en anglais le terrain en fait, la zone urbaine. Enfin, le terre-terre, en fait, dans le langage courant parlé. Et donc, il y a toutes ces dimensions qui sont regroupées. Et donc, c'est les notions que j'ai abordées un petit peu pour l'exposition. Et c'est une exposition que j'ai préparée, du coup, pendant 3 mois, suite à une résidence à Passerelle. Donc, c'est une résidence qui a commencé au mois de mars. Donc, j'avais un atelier, en fait, qui était mis à disposition, avec un budget aussi pour la production. Et un appartement, donc c'est vraiment le package tout en un pour produire au mieux. Donc c'est vraiment une chance en fait quand on sort d'école, voilà, d'avoir ce genre d'opportunité, pour avoir une équipe technique qui nous suit aussi tout du long, d'avoir des moyens qui sont déployés. Et c'est pas toujours donné non plus d'avoir accès à un atelier quand on sort d'études, notamment là c'était pour le coup les Beaux-Arts à Rennes.
On reviendra peut-être juste un petit peu après sur donc la résidence. Je voulais juste revenir sur le côté fourrure. C'est un débat qu'on entend de plus en plus, fourrure synthétique ou fourrure réelle. Est-ce que c'était une question ou une évidence pour vous ?
En fait, il y a toutes ces questions-là, justement. Vous verrez si vous déplacez à l'exposition, mais c'est très coloré, c'est très... Enfin, il y a énormément de choses comme ça, assez kitschouille, des choses qui font sourire, qui font rire. Et moi, j'impose pas en fait un discours engagé. Je préfère, par exemple, être sur place et avoir des discussions des questions comme celles que vous venez de poser en fait, qui se soulèvent, et d'avoir justement ces questions-là qui mènent à une discussion, parce que moi, derrière, j'ai quand même des positions vis-à-vis de la maltraitance animale, justement de la position aussi par exemple d'un cheval dans une course hippique, la façon dont il va être traité, mais aussi le jockey par exemple qui va être soumis à un régime alimentaire, enfin il y a toutes ces questions là donc entre l'animal et la personne qui va le monter. Et c'est des questions que j'avais déjà abordées aussi par exemple avec le monde canin, donc les concours de chiens qui sont colorés, enfin teintés, et tout ça. Puis c'est des choses que je mets toujours aussi en parallèle avec l'humain, enfin par exemple le monde des minimis dans les concours et tout ce genre de choses. Donc la fourrure, ça en fait partie, et bien sûr ça rejoint ces questions-là d'utiliser de la vraie ou de la fausse. Et au-delà de l'imitation, en fait, il y a vraiment la question éthique.
Donc c'est plus amener une réflexion que obliger, imposer une réponse.
Oui, enfin c'est vraiment de donner déjà à avoir quelque chose qui soit agréable, séduisant, mais en fait en laissant le choix vraiment au spectateur de se poser ou non la question. C'est écrit nulle part en fait, voilà, qu'il faut absolument avoir ce regard engagé, mais je pense que la question se pose pour la majorité des personnes, donc voilà.
Et donc vous parliez effectivement des résidences. Depuis 2013, Passerelle accueille donc pour 3 mois de résidence 2 artistes. Je vais du coup d'abord me tourner encore vers vous, Johanna Cartier. Qu'est-ce qui vous a poussé à candidater pour cette résidence ?
Déjà, je sors d'une école sur le territoire breton. Je sais que c'est une résidence qui est axée, qui est surtout dirigée aux étudiants qui sortent d'écoles d'art en Bretagne ou bien des artistes qui travaillent sur le territoire breton. C'est une résidence dont j'entends parler depuis un moment déjà. Quand on sort d'études, on postule à un maximum de choses. Et puis ensuite, la deuxième année, j'ai vraiment restreint mes choix. Et je savais qu'il y avait vraiment un accompagnement technique. J'avais pu discuter avec des artistes qui étaient déjà en résidence avant moi. Et je savais qu'il y avait tout un accompagnement qui était vraiment appuyé. Et puis une professionnalisation, surtout avec l'accompagnement de l'équipe et aussi de DDAB en parallèle. Voilà.
Loïc Le Gall, effectivement, les artistes sélectionnés sont forcément récemment diplômés. Pourquoi avoir fait le choix de cette sélection, de cette condition de sélection ?
Aujourd'hui, la question après du diplôme, du fait de sortir des études, pour les jeunes artistes, c'est vraiment compliqué. C'est-à-dire qu'on se retrouve, un peu abandonné au final. C'est-à-dire que il y a des métiers où on sort, on fait un stage, on travaille, on a un CDD, on a un CDI. Lorsqu'on est artiste, on se retrouve indépendant et on se retrouve comme ça à chercher des solutions, à chercher des possibilités. Et il me semble qu'aujourd'hui, on doit accompagner les jeunes artistes un maximum. Je dis pas qu'il faut ne pas travailler non plus avec les artistes de milieu de carrière, mais je pense que ces dispositifs qui sont vraiment différents d'aide, dispositifs d'exposition plus traditionnels, mais en l'occurrence pour les chantiers, c'est vraiment quelque chose moi qui me tient à cœur fortement, mais aussi à notre partenaire Document d'Artistes Bretagne, qui on travaille sur cette résidence. C'est important pour nous aujourd'hui de poursuivre aussi ce qu'ils engagent. C'est une association qui travaille aussi dans les écoles d'art et qui va justement présenter le métier entre guillemets on va dire administratif d'artiste aux jeunes étudiants. Et donc c'est une logique en fait d'aider ces jeunes.
Et qu'est-ce qui vous a plu dans le travail de Johanna ? Qu'est-ce qui a fait que vous l'avez sélectionnée ?
Johanna, je me souviens qu'elle avait un univers très pop, à part entière, un truc vraiment sincère, en fait. Et moi, ça m'avait beaucoup touché. Moi, je travaille beaucoup aussi au ressenti, au sentiment. Et c'est vrai quelque chose qui se passait quand on regardait son portfolio. On avait envie de la rencontrer, on a envie de voir ce qu'elle faisait vraiment comme œuvre. Et c'était très convaincant, tout simplement.
On va peut-être maintenant revenir sur donc l'exposition « Là où est la mer ». Donc, qui est présenté dans le cadre de la saison Africa 2020. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est Africa 2020 ?
Tout à fait. Alors, c'est une grande saison qui a été initiée par le président de la République, qui a été mise en œuvre par une dame qui s'appelle Ngoné Fall, qui connaît très très bien le monde de la culture en Afrique. C'était une saison qui a été construite pour mettre en avant en fait des partenaires africains en France, en ayant surtout voilà cette volonté d'accueil et cette volonté de partager un maximum la culture des différents pays africains. Donc c'est vrai que c'est à la fois l'Afrique francophone, à la fois l'Afrique des Grands Lacs ou du Sud. Et donc c'est une très belle saison qui est à la fois une saison spectacle vivant, littérature, science et donc art visuel. Pour Passerelle, ça semblait assez évident de pouvoir répondre à cette attente aussi et cette demande. Et donc Armelle Malvoisin, qui est écrivaine et journaliste à Beaux-Arts Magazine, est venue à l'époque nous voir avec un très beau projet qui s'appelle Là où est la mer aujourd'hui. Donc ce projet que vous pourrez avoir à Passerelle, qui rassemble 14 artistes de toutes contrées en Afrique, plutôt Afrique francophone, on va dire. autour, on va dire, de grands thèmes autour de la question maritime, la question notamment de l'écologie, et avec un sujet en particulier qui est traité autour de la légende de Mami Wata. Mami Wata étant, on va dire, une déesse, une divinité qui accompagne les pêcheurs, les gens de la mer. Elle est à la fois positive ou négative suivant les pays. C'est du vaudou noir ou du vaudou blanc. Ça dépend vraiment des populations. Et donc cette personne, cette divinité, voilà, elle va accompagner toute l'exposition. Il y aura même un hôtel en fait dédié à son honneur dans Passerelle. Donc c'est vrai que ça va être une exposition très colorée, très avec beaucoup de différences de médium, beaucoup de différences de génération d'artistes. Donc voilà un petit peu pour là où est la mer.
Et donc effectivement pour cette saison Africa 2020. Vous êtes en partenariat avec le Comédia aussi, sachant que demain on va recevoir Lucille Fontaine donc dans la quotidienne, donc on aura un petit peu son opinion, son avis. Mais moi j'aimerais bien la vôtre aujourd'hui. C'est comment est-ce que vous avez abordé ce partenariat avec le Comédia? Comment ça s'est passé?
Ça a été assez naturel en fait. Le Comédia à Brest organisait une exposition aussi sur des sujets très communs avec ceux de Passerelle. On a eu une discussion avec la direction du Comédia qui avait envie de faire des projections, des conférences et des performances. Et donc, Passerelle, du coup, accompagne sur la question des performances essentiellement pour un week-end particulier, un week-end spécial autour de cet événement-là.
Et du 11 juin au 11 septembre, comme je l'ai dit, le public peut enfin revenir à Passerelle. Comment est-ce que vous l'abordez, ça, après l'année qu'on vient de vivre, l'année particulière? Je m'adresse à vous, Loïc Le Gall, mais aussi à vous, finalement, Johanna Cartier, en tant qu'artiste. Comment on aborde une reprise comme celle-là?
Tout d'abord, je pense qu'il faut dire que c'est une joie immense. On est ravis, en fait, de pouvoir ouvrir de nouveau. On a beaucoup attendu, on a longtemps été prêts. C'est-à-dire que déjà depuis décembre dernier, a priori on devait pouvoir réouvrir au 15 décembre, on était prêt déjà à ce moment-là, et finalement le gouvernement a fait le choix de fermer ces établissements, enfin les établissements culturels, les théâtres, les cinémas, les centres d'art, les musées. On a pu voir que à l'étranger les lieux culturels restaient ouverts, qu'il n'y a pas eu d'incidence du Covid dans ces lieux-là. Donc, tout d'abord, il y a eu une grande incompréhension, hein, je pense, de manière générale. On l'a bien vu avec le Quartz occupé aussi, à Brest. Mais finalement, c'est la fin d'une longue route, un peu un long désert pour nous, même si on a été extrêmement actifs pendant cette période. On a refait notre site internet, on a fait beaucoup de résidences, on a utilisé Passerelle de manière vraiment différente. Beaucoup de pédagogie dans les écoles, d'ateliers, donc c'est vrai qu'on a toujours été là, mais un peu comme l'iceberg, c'est-à-dire que finalement la partie immergée n'était pas là, quoi. Mais on est extrêmement content aujourd'hui de rouvrir, parce que c'est vraiment nécessaire, je pense, on puisse, notamment pendant cet été là qui arrive, revenir dans des lieux de culture, que ce soit nos camarades du cinéma, que ceux du théâtre, etc. Donc c'est une grande joie.
Oui, moi personnellement, en tant qu'artiste, j'ai été plus impactée enfin vraiment en position de spectatrice déjà, enfin de pas avoir accès à tous ces lieux-là, et puis finalement d'avoir aussi des difficultés plus financières en fait pour créer, pour avoir accès à un atelier, toutes ces questions-là qui ont été un petit peu plus compliquées. Sinon, enfin, je m'estime quand même, enfin plutôt chanceuse par rapport aux autres personnes, par exemple de ma promotion. Du fait d'avoir eu justement cette résidence qui est arrivée vraiment au bon moment pour pouvoir me sortir un petit peu de tout ça. C'était compliqué surtout pour la production et puis il y avait énormément de concurrence. Enfin, moi j'ai ressenti ça, c'est qu'il y avait beaucoup plus de concurrence au niveau des candidatures parce que les personnes avaient plus de temps aussi pour monter leur portfolio et tout ça parce qu'ils avaient perdu par exemple leur travail alimentaire à côté. Donc j'ai ressenti un petit peu plus de pression à ce niveau-là. Après ouais, c'était vraiment financier et puis pour se nourrir quoi pendant un an et demi, enfin c'était plus compliqué donc voilà.
Loïc Le Gall, Johanna Cartier, merci d'être venue ce soir.
Merci à vous.
Et donc je rappelle que les expositions sont à retrouver à Passerelle du 11 juin au 11 septembre. C'est vous qui le dites, revient tout de suite après Psalm de Jerrican Nachos and the Rookies. vous écoutez toujours C'est vous qui le dites sur le 101.fm. C'était Jerrican Nachos and the Rookies avec le titre Psalms. Et donc, on continue notre tour d'horizon des programmations culturelles estivales avec celle du Relecq Quirion. Et pour nous en parler, on a au téléphone le responsable du service culturel de la ville du Relecq Quirion, Julien Saoud, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, les festivités, elles commencent directement avec le dimanche 13 juin, avec un brin classique. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'on va découvrir?
Alors, en brin classique, on n'est pas sur la première édition. Hein. C'est un rendez-vous musical et nature qu'on conçoit depuis quelques années avec toute l'équipe du conservatoire, élèves et professeurs, donc du conservatoire de Brest. On donne rendez-vous dans un lieu assez exceptionnel, au Relecq Quirion, puisqu'il s'agit du manoir de l'Ossulien, qui est un domaine privé et qui nous est ouvert pour l'occasion. Et on va proposer au public, à partir de 14h, de se rendre par groupe dans différents lieux du manoir pour assister à quelques escales artistiques.
Et donc, j'imagine qu'effectivement, avec le Covid et tout ça, malheureusement, ça sera une édition un petit peu particulière que celle des années précédentes.
Oui, c'est un format revisité parce qu'habituellement, le public venait goûter à un brin classique autant de temps qu'il voulait et dans n'importe quel lieu du manoir, du parc. Or là, on va l'accueillir et puis on va le guider sur un parcours comme ça, qui est jalonné de 4 temps artistiques. Et une fois qu'il aura fait ce parcours-là, il pourra aller profiter dans d'autres lieux de la métropole d'animation.
Et comment est-ce que vous l'avez créé, ce parcours ?
Ce parcours, on l'a créé de deux manières, en se reposant sur les lieux d'attractivité du parc, puisque le domaine de l'Ossulien est vraiment un écrin de verdure, un joli bijou comme ça caché au Relecq Quirion. Donc on a voulu valoriser 4 lieux de ce domaine-là, en lien avec son propriétaire, la famille Boger, et puis surtout en lien avec Alexandra Vissière du Conservatoire à l'Action Culturelle, qui a sondé les élèves, les professeurs sur leurs envies, puisque tous ces temps-là sont animés par des élèves et des professeurs du conservatoire, autant en musique qu'en danse. Donc c'est de 14h à 16h45 à peu près, une invitation à la musique, à la danse et à la découverte pour tous les âges, sous la forme d'un parcours. C'est ça l'originalité de la journée.
Et donc, on a pu entendre il y a quelques minutes une chanson de Jerrican Nachos and the Rookies. Vous les proposez en concert en partenariat avec la Carène, mais si j'ai bien compris, c'est réservé aux enfants de l'accueil de loisirs.
Oui, exactement. On l'inscrit dans notre saison culturelle pour montrer aussi l'éventail de nos propositions. C'est en effet la Carène qui a proposé au service culture du Relecq Quirion, mais aussi aux collègues programmateurs des autres communes, de s'associer à ce groupe qui fait une proposition pour les plus jeunes enfants. Donc nous, là, au Relecq Quirion, on va être sur les 2-5 ans qui auront plaisir d'assister à enfin et de reprendre enfin la direction des concerts en live, donc mercredi 16 juin. Mais c'est réservé à quelques privilégiés cette fois-ci.
Ce qui nous amène donc au 19 juin pour la fête de la musique. Alors ça fait du bien de voir qu'il va se passer quelque chose pour la fête de la musique. Qu'est-ce que vous nous préparez ?
On est en préparation, là j'étais encore sur le terrain à prendre quelques mesures. Effectivement, c'est un contexte particulier, mais la ville a tenu à donner toute sa place à la musique. En l'occurrence, nous, à quelques jours du 21, le samedi 19. Alors à 11h, la médiathèque, qui est toujours très active sur ces temps de fête de la musique, va proposer un N'oubliez pas les paroles assez particulier, où toute l'équipe prend vraiment place dans ce jeu. Donc les sélections sont en ligne à partir du 14 juin sur le site de la médiathèque pour voter pour les artistes préférés des Mediatek Music Awards. Donc ça, c'est la proposition de la médiathèque. Et puis, dans l'après-midi, on va proposer normalement 2 à 3 espaces scéniques dans la ville. On est en train de construire ça avec des formes acoustiques et des formes sonorisées. De 14h à 18h, on va dévoiler très rapidement les lieux, c'est en construction. Et puis une fanfare fera le plaisir aussi d'animer le marché du samedi matin et puis tous les lieux de commerce de la ville.
Et comment est-ce que vous organisez un événement comme ça avec les conditions sanitaires actuelles ? Comment est-ce que ça se passe ?
Alors c'est pas une partie de plaisir, c'est sûr, puisqu'il faut allier la disponibilité des participants, puisqu'ils n'ont pas eu l'occasion pour les amateurs de répéter en groupe. Donc on lance encore à ce jour un appel à candidature aux musiciens qui voudraient avoir une scène pour jouer le 19 juin, de contacter la mairie. Donc il faut la disponibilité des musiciens, il faut les autorisations préfectorales, etc. Et puis le protocole sanitaire de distanciation, de jauge, de renseignement de carnet d'entrée pour mettre son nom, son prénom, ses coordonnées. C'est un savant mélange, comme un rouage en fait. Il faut réussir à ce que toutes les dents du rouage, des rouages soient les unes en face des autres. Ça ne sera pas un format de fête de la musique habituel, mais on sera au rendez-vous pour proposer quelques moments de musique, oui.
Et puis, on finit le mois de juin donc avec la fête du livre jeunesse. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Alors là, c'est un peu plus le volet de l'équipe de la médiathèque. Mais on travaille de concert entre le service culture et la médiathèque. Et la médiathèque prend chaque année partie sur la fête du livre jeunesse. Donc là, il y aura deux propositions. Rachel Laprairie, qui est une artiste bien connue du coin, qui va proposer un atelier merveilleux Kamishibai, atelier créatif dès 8 ans. Donc ça, c'est sur inscription. Et puis en juillet, Histoire Océane, qui sont des lectures qui sont proposées par l'équipe de la médiathèque. Donc toujours ça dans la fête du livre jeunesse, qui est un pan de la politique de la lecture publique dans la ville.
Donc vous travaillez avec la médiathèque, mais aussi avec d'autres institutions comme le Fourneau, avec laquelle vous faites donc une collaboration en juillet et en août pour découvrir Comin Kéror. Comment est-ce que vous avez choisi ces événements, programmés comment est-ce que vous avez travaillé en partenariat avec le Fourneau ?
Alors la ville du Relais-Kérorion et le Fourneau, c'est une longue histoire, une longue histoire d'art de la rue. Désormais, ou en tout cas pour cette saison, on est parti sur un partenariat qui s'appelle Comin Kéror. Comin parce qu'on aime, c'est basique, mais faire les choses en commun. Et puis que ce qui n'est pas basique du tout, c'est que le Relais Kérorion croit dans ces espaces publics, dans ces choses à faire en commun, dans ces communs à partager. Donc là, c'est un Comin Kéror au singulier, mais ce sont des choses communes au pluriel qu'on partage. La rencontre entre les artistes et les habitants. Ça, on y tient, le Fourneau y tient, la ville y tient, et on a été trop absents. Pas forcément la ville, mais ces moments de rencontre ont été très absents. Donc on a décidé de renouer avec cette programmation artistique dans le respect des gestes sanitaires et des conditions de jauge. C'est pour ça que certains rendez-vous sont sur réservation cette année, ce qui est assez nouveau pour travailler sur l'espace public, de mettre sur réservation, mais c'est ainsi au niveau national. Donc oui, c'est une belle rencontre avec le Fourneau pour ses communs Kéror d'été et qui commence le 24 et 25 juillet avec le rendez-vous La Veillée de la compagnie Opus.
Vous êtes le responsable du service culturel de la ville du Relais-Kérorion, Julien Saoud, je le rappelle. Je vais peut-être vous poser une question un petit peu compliquée, mais est-ce que vous avez un événement qui vous tient particulièrement à cœur, un événement que vous avez particulièrement aimé programmer ou...
Alors, tous, évidemment, puisque c'est le cœur de mon métier, mais le dimanche 8 août, j'ai travaillé à la programmation d'un nouvel événement, en fait. On a voulu écrire avec les élus et avec l'équipe de la ville un nouvel événement artistique qui s'appelle un dimanche de rêve, et on s'est permis de faire une programmation alors sur un après-midi cette année seulement, mais un événement qui pourra prendre plus d'ampleur et qui va se blottir pareil dans un cadre végétal au creux de la nature pour trois propositions artistiques, dont une qui est avec la compagnie Micmac et qui s'appelle La pêche à la ligne de tes rêves, une ode à la nature, un espace zen et ludique à découvrir absolument, notamment pour ceux qui ont déjà eu affaire à cette compagnie lors du festival Thermos au Moulin Blanc l'hiver dernier. Eh bien, ils ont inventé un tout nouveau spectacle qui est vraiment magnifique. Donc voilà mon coup de cœur, le dimanche 8 août, un dimanche de rêve, c'est le nom de l'événement.
J'imagine que du coup vous avez été en contact avec beaucoup de compagnies, beaucoup d'artistes. Johanna Cartier, qu'on avait donc en début d'émission, nous parlait d'elle en tant qu'artiste d'un ressenti de concurrence. Comment est-ce que vous avez choisi les artistes ? Est-ce que vous avez senti un petit peu beaucoup plus de candidatures, beaucoup plus de demandes ?
Alors, de demande, pas nécessairement, puisque lorsqu'on écrit ces rendez-vous, c'est vraiment nous qui allons à la recherche des artistes pour répondre à nos envies de programmation. Non, la relation avec les compagnies était particulière cette année, effectivement, depuis le confinement. Ce qui est compliqué, c'est la détresse de certaines. Et puis aussi en termes de calendrier, de trouver les créneaux, puisqu'il y a eu beaucoup de dates de report. Donc c'est comme au cinéma, tout ça bouchonne, il faut trouver des calendriers communs. Et on a réussi, on est content pour cette année de faire venir des compagnies locales, mais même des compagnies de bien plus loin. Hein. Il y a des compagnies du sud de la France qui vont venir à la rencontre de nos habitants. Et c'est ça qu'on aime, faire du local, mais aussi faire découvrir, donner l'opportunité d'avoir l'émerveillement qui vient d'ailleurs au Relecteurion.
Julien Saout, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci Marion.
Bonne soirée.
Bonne soirée, au revoir.
Et donc C'est vous qui le dites est terminé pour aujourd'hui. Merci à Loïc Le Gall et Johanna Cartier d'être venus nous présenter la saison culturelle d'été de Passerelle. Les expositions sont à découvrir du 11 juin au 11 septembre avec entrée libre le 11 juin. Et merci également à Julien Saout de nous avoir présenté la saison culturelle estivale du Relais Kéruon. Retrouvez toutes les informations sur lerelaiskeruon.bzh. Retrouvez cette émission en podcast ainsi que toutes les autres émissions de la radio sur notre site internet. Retrouvez à 19h à la recherche de la Spoutniter. Et en attendant, C'est vous qui le dites, revient demain à 18h. Et en attendant, amusez-vous bien sur le 101.1.